Michel Philippot, bonjour.
Bonjour.
Vous coordonnez le volet écologique au sein de la France Insoumise avec vous. On va revenir sur cette consultation citoyenne et populaire qui est lancée dans les Hautes-Alpes à la veille des élections présidentielles et notamment pour la France Insoumise et pour Jean-Luc Mélenchon. J'aimerais d'abord revenir sur un point. Vous êtes aussi à la tête de l'association LESA qui a été créée en 2007 dans les Hautes-Alpes qui propose une alternative au ciment. Ça, c'était son origine à l'époque parce que vous vous opposiez au projet d'une cimenterie en Belgique. Là, c'est un fossé, j'allais dire, entre le ciment et la politique. On n'est plus du tout dans le même domaine.
Alors, il y a un lien, hein, parce que toute ma vie a été en lien avec... elle s'est inspirée du moment où j'ai vécu avec des enfants malades à côté de cette cimenterie. Ça a été le déclencheur de plein de choses en moi, d'une vie plus écologique. D'abord, où j'ai fui et je suis venu dans les Hautes-Alpes habité en plein milieu de la nature, et puis aussi d'une conscience politique au fur et à mesure, parce que je me suis dit, eh ben, y a moyen de construire autrement. La construction, c'est 33% des gaz à effet de serre si on prend la construction et en même temps la vie du bâtiment. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait même construire de manière non seulement sans consommer de CO2, parce qu'on peut utiliser des matériaux crus, on peut construire sans chauffage, parce qu'on peut avoir des bâtiments presque passifs et en même temps, on peut stocker du carbone dans le bâtiment. Et donc, c'est suite à ça, eh bien dans l'association, nous, on a fait une centaine d'auditions vraiment de personnes différentes, parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des cimentiers, avec la CGT Ciment, je travaille avec des gens qui ne veulent plus de gaz à effet de serre, des gens qui veulent qu'on artificialise plus les sols. Et donc... tout ça, ça m'a permis de rencontrer plein de gens et de me dire que les auditions, c'était quelque chose de formidable et qu'on pouvait changer le monde aussi. Donc c'est pour ça, j'ai un lien quand même avec la question politique.
Mais justement, cette implication écologique aurait pu vous mener en politique du côté d'Europe Écologie Les Verts, pas de la France Insoumise.
Alors moi, j'ai été frappé à toutes les portes. Hein. J'ai même été frappé à Fillon à l'époque, à la campagne présidentielle. J'avais frappé à la porte d'Europe Écologie Les Verts. Mais en fait, c'est vraiment dans la France Insoumise où j'ai vu une volonté de planification et de mettre ensemble plein d'acteurs différents, de travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple de régionaliser une cimenterie pour qu'on puisse faire autre chose et travailler avec les travailleurs actuels du ciment qui vont être délocalisés en Chine, qui vont vivre des délocalisations. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de fédérer toutes les luttes et écouter longuement les gens. Et puis, on se rend compte que des intérêts peuvent converger entre des travailleurs, entre des gens qui luttent contre l'environnement. J'ai l'impression qu'au niveau écologique, c'est comme si on jouait au Rubik's Cube en essayant qu'une seule facette. Alors effectivement, il faut beaucoup plus écouter pour pouvoir gagner toutes les facettes. Mais je pense qu'on peut arriver à un combat beaucoup plus unitaire avec tout le monde.
Alors fédérer ceux qui n'ont rien en commun, c'est un peu le sens de cette consultation citoyenne et populaire qui est lancée dans les Hautes-Alpes. Elle consiste à auditionner qui et à poser quelles questions?
Alors d'abord, c'est auditionner tout le monde. Parce que j'ai vraiment envie d'écouter tout le monde. La première question qu'on se pose, c'est comment ça va? Et ça, c'est vraiment une question importante. On écoute le restaurateur qui n'arrive plus à exercer son métier. On écoute la personne âgée qui ne voit plus ses enfants. On écoute l'ado qui a peur de l'avenir climatique ou qui se pose des questions sur son avenir. On écoute la mamie qui n'a pas pu aller à l'enterrement avec la situation sanitaire. Et l'idée, c'est vraiment d'écouter plein de personnes. Alors pour moi, ça fait 100 ans hein, que le capitalisme, il est entré dans nos papilles, qu'il énuque nos goûts, qu'il rêve nos maisons. Mais la gestion étatique de la crise sanitaire et sécuritaire aujourd'hui, qu'a engendré le capitalisme, eh bien s'immisce comme jamais dans notre intime. Et pour moi, poser la question et écouter les gens, eh bien quelque part, c'est leur redonner le goût du bonheur.
Expliquez-moi simplement en quelques mots et comment le capitalisme a géré la crise sanitaire dans nos maisons.
Alors j'explique, c'est la gestion étatique d'une crise qui arrive et qui est gérée à la petite semaine. Alors j'ai bien parlé d'une gestion étatique. Hein. Donc c'est une crise qui est gérée par le gouvernement de manière complètement pyramidale, qui dit un jour, on a eu une enseignante hier, on apprend par la presse que le jeudi et le vendredi, les élèves vont pas venir à l'école. Et il y a une gestion étatique en fait d'une crise, c'est des crises engendrées par le capitalisme, hein, pour nous les crises sécuritaires, les crises sanitaires, parce qu'il y a des malaises qui ne s'expriment pas et qui à un moment pètent et il n'y a aucune réflexion sur une planification et une co-construction citoyenne d'un programme commun et d'un avenir en commun.
Si on n'avait pas eu le capitalisme, cette crise sanitaire aurait été gérée comment? Ça aurait été quoi l'alternative? Qu'on comprenne bien.
Alors, ça, c'est une vraie question, c'est de se dire comment on aurait pu co-construire. Alors, moi, je suis pas, je suis pour un système mixte, hein, je suis pas anti, je veux dire, toute économie de marché. Et je veux dire, je suis pour aussi qu'il y ait des artisans qui puissent vivre de leur boulot. Mais je suis pour un État beaucoup plus fort qui va essayer, mais pas un État transversal, un État qui va essayer de co-construire avec les citoyens, les écouter. Mais on aurait pu, par exemple, faire, comme il y a eu une consultation citoyenne sur le climat, on aurait pu consulter les gens, chacun dans leur rôle et dans leur métier. Les enseignants, ils savent peut-être aussi qu'est-ce qu'il faut faire, plutôt que de leur dire la veille ou l'avant-veille, ils prévoient des choses et puis entendre par voie de presse que le jeudi et le vendredi, les élèves n'iront pas en classe. Ou c'est la même chose, les restaurateurs, est-ce qu'on pourrait pas s'appuyer sur eux et co-construire avec eux, co-construire avec les citoyens pour avoir une gestion? Alors, une gestion étatique, évidemment, mais c'est tout. Nous, l'enjeu de notre programme, c'est toujours d'allier une révolution écologique, une planification et une révolution citoyenne. Et donc, en fait, c'est écouter les gens et avoir un pouvoir plus fort de l'État et pas simplement tout laisser aux mains du marché, quoi.
Vous rejoignez un peu l'idée avancée par Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est de droite, on le précise quand même, mais lui aujourd'hui, il appelle à ce que cette crise sanitaire soit gérée territoire par territoire. Qui mieux que les maires, que les présidents de département et que les présidents de région savent ce qu'il faut faire, quel commerce laisser ouvert, quelle station peuvent ouvrir?
Je pense que je n'ai pas étudié dans le détail exactement ce qu'il a dit, hein, vous m'apprenez, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, certainement.
Alors, cette campagne de consultation citoyenne, c'est un travail aussi qui est programmatique pour 2022, pour les élections présidentielles de 2022. Est-ce que ce n'est pas un peu tôt quand même? Parce que, alors déjà politiquement, il y a les départementales et les régionales qui s'installeront avant, en 2021. Même temps, il y a la crise sanitaire. Les Français vivent dans cette crise sanitaire. La vie économique tremble. Les départements se demandent aussi comment ils vont pouvoir payer cette enveloppe RSA qui gonfle au fil des mois. C'est pas un peu tôt?
Alors, il y a déjà pas mal de citoyens qui, je vous le dis en quelques mots, la question des régionales, la question des départementales, c'est moins leur affaire. Ils savent qu'un des gros changements, ça va être le levier national, quoi. Et donc, co-construire un programme sur du long terme, c'est moi, je me rends compte que si on écoute vraiment les citoyens, moi, j'ai toujours une interrogation, c'est que quand on écoute les citoyens, il y a énormément de points qui sont dans l'avenir en commun et dans notre programme. Et donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment co-construire avec eux et l'améliorer. Et on a besoin de temps long. Par exemple, nous, sur la journée d'hier, on a fait 50 auditions. Et 50 auditions, c'est pas du tout assez. Nous, il nous en faudra des centaines, il nous en faudra des milliers, rien que sur le département, pour vraiment co-construire des choses. Et puis nous, ce qu'il nous faudra, et là, je lance un appel au micro, il nous faudra écouter toutes les associations. Il nous faudra écouter les syndicats. Il nous faudra écouter, effectivement, même le MEDEF, les syndicats policiers. Je veux dire, tout azimut, on a besoin d'écouter vraiment tout le monde. Et à partir de là, l'idée, c'est quand on aura vraiment un panel très élargi, on fera des rassemblements thématiques pour faire des débats contradictoires avec des citoyens, pour continuer à co-construire. Si on arrive à 6 mois de la présidentielle à démarrer ce genre de démarche, moi je suis candidat, mon candidat c'est un programme, c'est pas spécialement une personne. Et si on arrive quelques semaines à l'avance, on va parler que du veston, du nouveau président, de conflits internes, on va parler de plein de sujets qui, en fait, ne concerne pas vraiment les Français.
J'ai du mal un peu à comprendre vos propos parce qu'il y a quand même un paradoxe. En tout début d'interview, vous disiez par rapport à cette crise sanitaire, il nous faut un État plus fort, mais surtout qui entende tout le monde et en fait partir de la base, hein, la base locale. Et là, vous venez de dire le gros changement, en fait, c'est pas vraiment les régionales, c'est pas vraiment les départementales, c'est le national. Paradoxal, ce que vous êtes en train de dire.
C'est paradoxal et ça l'est pas. C'est qu'aujourd'hui, les leviers dans la monarchie présidentielle et dans la Ve République, il y a un pouvoir qui est extrêmement fort au niveau du président. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel il faut le tenir et que la révolution citoyenne, elle peut être faite que si on change de système et qu'on adhère à une 6e République et qu'il y a un autre partage avec, on était pour la suppression du Sénat, par exemple, je vais dire, en 2017. Et pour, par exemple, installer le RIC permanent, interroger les citoyens. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Si on fait ça, c'est pour pas les écouter. On voit ce que ça donne la convention citoyenne, ou pour finir, on les écoute pas. Donc il faut, effectivement, et les citoyens sont pas dupes, sinon ils vont pas voter aux petites élections. Si on change pas ce levier, on n'aura pas un levier fort pour, après ça, construire avec les territoires, construire localement, Je sais pas, moi je vois le lien entre ce que j'ai dit dans les deux parties.
Dernière question, c'est un soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Vous le disiez, moi mon candidat c'est l'Avenir en commun. On sait que l'Avenir en commun c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon.
Alors tout à fait, je pense que c'est la personne qui peut le mieux incarner la question de l'avenir.
Il y a un seul leader naturel au sein de la France Insoumise, hein. Il revient chaque année.
Oh, chaque année, c'est la
personne d'autre. Personne d'autre que Jean-Luc Mélenchon au sein de la France Insoumise.
En tout cas, il y a plein de personnalités qui ont émergé, des gens qui ont une trentaine d'années, etc. Mais je pense que, de toute façon, n'importe quel candidat va être, au niveau de l'avenir en commun, va être malmené. Et je pense qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est le mieux à même pour mener ce combat.
Merci beaucoup, Michel Philippot, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous coordonnez le plan volet écologique de la France Insoumise et donc il y a cette consultation citoyenne et populaire qui est lancée dans les Hautes-Alpes. Merci
voilà,
beaucoup.
Un grand merci à vous, en tout cas.